Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, passé de 1 minute. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France au ralenti vraiment ce matin. Transport supprimé, 845 écoles fermées, des oraux du bac reportés, horaires adaptés. Et cette canicule exceptionnelle risque bien de durer toute la semaine. On va reparler dans ce journal de l'affaire Liana, avant la remise des conclusions du rapport sur les défaillances policières et judiciaires qui ont conduit au drame. Et de la Coupe du Monde de football, les Bleus joueront, mais alors tard hein, ce soir, on verra ça, leur deuxième match contre l'Irak.
Nous venons de vivre la nuit la plus chaude depuis 7 ans.
Oui, c'est rendez-vous en terre inconnue. En fait, en ce moment, on atteint des niveaux jamais atteints. À 6h ce matin, il faisait déjà 33 degrés à Biarritz, après une journée qui avait déjà été la plus chaude de tous les temps dans certaines villes, avec plus de 35 degrés relevés dans les trois quarts du pays. Et alors, ce n'est que le début, car on attend encore plus aujourd'hui à Bordeaux, où vous êtes en direct et où il fait déjà très chaud, à Marion Gauthier.
Oui, 26 degrés ce matin, et malgré une brise légère, la sueur coule déjà sur les fronts et marque les vêtements. Régis est restaurateur, il souffle résigné.
Déjà en nage et je vais au travail. Le resto n'a pas la clim, non. Il a chaud déjà. Je suis déjà liquide, ça va être compliqué. On va prendre sur nous. Hein. En s'arrêtant, on ne sait même pas quand est-ce que ça sera la fin. Donc on espère qu'il y ait un bel orage.
Des salariés inquiets pour la suite. Claude est livreur de boissons sur le pont depuis 5 heures. Très rouge dans sa combinaison orange, il sort de la cave d'un bar.
Et il fait au moins 50 degrés dans la cave. C'est intenable. Ça commence bien aujourd'hui, le lundi déjà. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, ça va être vraiment très dur. Hâte que ça s'arrête un petit peu, la chaleur. C'est la deuxième en 2-3 semaines, canicule. Ouais, c'est terrible, ça va être très dur l'été.
Et pour aider à supporter cette chaleur, la mairie de Bordeaux étend les horaires d'ouverture des piscines, des parcs et jardins, accessibles parfois jusqu'à 23 heures. Des douches et des brumisateurs sont aussi répartis dans la ville, qui risquent de suffoquer cet après-midi avec 42 degrés attendus.
Dans cette ville de Bordeaux, département de la Gironde, où trois personnes âgées sont mortes hier, des décès qui sont liés à cette chaleur, selon la préfète de ce département. Alors Météo France parle d'une canicule exceptionnelle qui va se poursuivre, voire s'aggraver dans les prochains jours. Géraldine Demory, on ne sait toujours pas quand elle va s'arrêter, cette canicule, la ministre de la Santé le répète ce matin, mais on sait déjà qu'elle est pire que celle de 2003 qui est dans toutes les mémoires.
Oui, effectivement, pire que 2003 ou 2019, qui sont les canicules les plus importantes de notre histoire. Pire par son intensité, puisque le record absolu du 5 août 2003 devrait être battu. Là, dans les 4 prochains jours, on attend un indicateur thermique national qui devrait dépasser les 29 degrés. 29 degrés sur 4 jours, c'est quelque chose de totalement inédit. Pire également pour son étendue. On a 89 départements actuellement en vigilance rouge ou orange. C'est du jamais vu depuis l'instauration de la vigilance de Météo France en 2001. Sans doute aussi la pire par sa durée, puisque l'épisode actuel a commencé mercredi dernier. Et effectivement, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas de date de fin. Si on regarde les modèles de prévision jusqu'à 14 jours, on n'a pas de franche baisse de température, donc au moins jusqu'à début juillet. Donc c'est vraiment à cause d'un blocage anticyclonique. On a comme une poche au-dessus de la France, avec de l'air chaud qui s'emporte de sortie qui serait active sans arrêt.
Et puisque nous ne sommes pas équipés, eh bien on s'adapte avec tout un tas de conséquences. Dès ce matin dans les écoles, les collèges et les lycées, Lucas Laubert pour RMC, il y a énormément d'aménagements.
Et ça commence par les oraux du bac prévus aujourd'hui et demain. Ils sont reportés dans 5 académies, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Poitiers et Nantes. 5000 élèves en classe de première et de terminale ont reçu une convocation avec une nouvelle date d'examen, une semaine grand maximum après la date initiale. En ce qui concerne les épreuves du brevet des collèges qui démarrent vendredi et se terminent mardi prochain, pas de changement pour le moment, mais le ministère de l'Éducation nationale, joint par RMC, assure être très attentif à l'évolution de la situation. Seule une épreuve est prévue l'après-midi.
845 écoles et collèges sont fermés là ce matin. 1800 autres vont libérer les enfants cet après-midi. Il y a cours ce matin mais pas cet après-midi. Est-ce que les parents peuvent d'eux-mêmes garder les enfants à la maison?
Bien, Quentin, légalement, non. L'école reste obligatoire pour les enfants entre 3 et 16 ans, quelle que soit la température. Mais, Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, nuance. À titre exceptionnel, la bienveillance sera de mise vis-à-vis des parents qui décideraient de garder leur enfant à la maison maison en ce début de semaine, à condition de prévenir les écoles, bien sûr. Une politique de tolérance adoptée par les municipalités de Strasbourg. Les écoles restent ouvertes, mais la ville autorise les parents qui le souhaitent à ne pas emmener leur enfant à l'école cette semaine.
Alors, parmi toutes les conséquences, les transports en région parisienne, des suppressions prévues toute la journée dans les RER et les trains de banlieue, tous en fait sont concernés sauf le RER A. Le risque de feux de forêt qui est élevé dans 17 départements là pour aujourd'hui, près de la Méditerranée, c'est habituel, mais aussi dans le centre-ouest où un incendie a déjà brûlé 25 hectares durant le week-end. Il y aura une cellule interministérielle de crise qui se réunira dans la journée à Matignon. Et alors avant ça, eh bien, en fin de matinée, seront remises les conclusions du rapport sur les dysfonctionnements qui ont conduit au meurtre de la jeune Liana, il y a 3 semaines dans le Gers. Pourquoi le suspect Jérôme Barella n'a jamais été poursuivi alors qu'il était visé par une plainte pour viol sur mineur déposée l'année dernière? Julie Brault du service police-justice, on parle de défaillance judiciaire et policière, hein.
Oui, ces enquêtes permettant d'apporter un contradictoire peuvent viser chacune des personnes mises en cause par le rapport d'inspection, à commencer par la substitute chargée des mineurs du parquet d'Auch. La plainte pour viol déposée en août 2025 contre Jérôme Barella a mis 3 semaines à être ouverte et 1 mois et demi à être attribuée à un service d'enquête. Le garde des Sceaux pourrait proposer une sanction à l'encontre de la magistrate, allant du blâme à la révocation, sanction qui devrait être soumise à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. La responsabilité de l'officier de police judiciaire chargé des investigations est également mise en cause par le rapport, alors que Jérôme Barella n'a jamais été placé en garde à vue dans cette affaire. Si une enquête administrative individuelle le confirme, le ministre de l'Intérieur pourra par exemple demander sa mise à pied ou sa mutation.
À l'étranger, la ville de Moscou, encore visée par une attaque de drones ukrainiens cette nuit. Les 4 aéroports de la capitale russe fermés durant la nuit. La Russie qui a répliqué là tôt ce matin en visant un cargo ukrainien qui a pris feu en mer Noire. La nuit agitée en Colombie avec des heurts et des drapeaux américains brûlés en réaction à l'élection du candidat de droite dure soutenu par Donald Trump à la présidentielle. Le pays était à gauche jusque-là. Tiens, puisqu'on parle des États-Unis, les pourparlers USA-Iran qui doivent se poursuivre toute la semaine en Suisse, les deux pays ont convenu cette nuit de trouver un accord de paix dans un délai de 60 jours.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors vous savez, c'est dans ce contexte que l'Iran a fait un pas vers la qualification en accrochant le match nul 0-0 hier soir face à la Belgique à cette Coupe du Monde. Dans le même groupe, l'Égypte a gagné 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, ça c'était dans la nuit. En attendant donc le deuxième match de l'équipe de France ce soir, très tard à 23h, ça va se jouer à Philadelphie cette fois, la France contre l'Irak, pays dont il faut se méfier, nous dit Didier Deschamps.
Je vous le dis, c'est pour moi, c'est pas une petite équipe. Déjà, ils ont été se qualifier au Mexique. Et puis, le premier match contre la Norvège, à la 75e, ils sont à 2-1. C'est une équipe qui a l'habitude d'un système avec des automatismes. Il y a des relations techniques entre les joueurs, parce que c'est pratiquement toujours les mêmes. Il faut pas penser que ça va être un match facile.
Et alors, Nicolas Pelletier, vous êtes un des nombreux envoyés spéciaux de RMC. Vous nous dites qu'à Philadelphie, c'est pas de la chaleur qu'on redoute, mais ce sont bien les orages ce soir et les Américains ne prennent aucun risque avec ça. Hein.
Oui, dès qu'un impact de foudre sera détecté dans un rayon de 13 km autour de l'enceinte où se déroule la rencontre, les autorités américaines demanderont à la FIFA de suspendre le jeu et de mettre à l'abri les 68 000 spectateurs du stade de Philadelphie. Un compte à rebours de 30 minutes sera déclenché. Pendant ce temps, les joueurs devront patienter dans les vestiaires pour que la rencontre puisse reprendre. Aucun nouvel impact de foudre doit être signalé durant cette demi-heure. Dans le cas contraire, le chronomètre repart à zéro. La FIFA n'a pas établi de délai maximum avant l'annulation du match. L'instance avisera sur le terrain et ça peut durer très longtemps. L'été dernier, lors du Mondial des clubs aux États-Unis, un match de Chelsea organisé à Charlotte avait au total duré 4h38.
Bon, et puis avant les Bleus, à 19h, la soirée commencera par Lionel Messi et l'Argentine contre l'Autriche.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h10 et c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, face aux canicules à répétition, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, lance une pétition pour réclamer un congé climatique. Ce serait quoi ça?
Alors le principe est assez simple, permettre à chacun de faire face à une canicule, mais pas seulement. Hein. Ça pourrait être inondation, incendie, avec en général des risques de fermeture d'école liés au climat, sans perdre de revenus. En gros, il s'agirait d'octroyer 5 jours de congé potentiel pour permettre notamment de garder ses enfants lorsque les écoles sont fermées. Mesure inspirée par la la décision du gouvernement espagnol de Pedro Sanchez qui, en novembre 2024, a accordé 4 jours de congés payés en cas d'alerte météo. Alors, en théorie, la proposition n'est pas absurde. Les accidents climatiques sont amenés à se multiplier. Ils pénalisent les familles les plus modestes. On pense notamment aux familles à bas revenus, aux familles dans lesquelles il y a des mères célibataires, par exemple, qui sont contraintes de faire garder leurs enfants. Les risques d'accidents du travail sont plus élevés. Ça permet de me prendre soin des personnes les plus fragiles par le système de santé et par la famille, évidemment. Et puis, le système ne serait déclenché qu'en cas d'alerte officielle. Donc, c'est pas « Oh, il fait chaud, je prends une journée », quoi.
Donc, ça, c'est la théorie, vous dites. Mais alors quoi? Il y a un problème dans la pratique?
Oui, parce que en pratique, tout ça est pernicieux. La réalité, c'est que dans les entreprises, il y a déjà beaucoup de possibilités. Il y a les RTT, les congés familiaux, les congés enfants malades, les arrêts maladie, l'activité partielle dans certains cas, le télétravail. Il faut rappeler que le code du travail prévoit que une entreprise doit prendre soin de la santé de ses salariés. Donc, en réalité, ça existe un peu déjà. Et puis, l'exemple espagnol, il est dévoyé. Il faut rappeler que ce congé, en Espagne, il avait été créé à la suite des inondations de Valence. Il y avait eu plus de 220 morts à cause d'entreprises accusées notamment d'avoir maintenu leurs salariés au travail malgré les alertes météo. En fait, l'Espagne a créé un outil de sécurité civile. Les écologistes français proposent plutôt un nouveau droit social. C'est compliqué à gérer pour les PME, c'est inopérant pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les agriculteurs ou les professions libérales. Et puis ça a un coût potentiellement élevé. Même si 20% des salariés étaient concernés seulement chaque année et prenaient 2 jours en moyenne, ça coûterait quand même presque 2 milliards d'euros.
Et dans les faits, beaucoup de salariés s'adaptent. Bruno, tout à l'heure, qui est ouvrier agricole, nous disait qu'il en parlait directement avec son patron et qu'ils organisaient les histoires d'horaires. Les chiffres, alors, ça continue à descendre
oui,
ou pas,
oui,
Manu?
Oui, côté carburant, ça va plutôt pas mal. Le gazole, on est à 1,91. On est au plus bas depuis le début mars. Le sans-plomb 95, on est à 1,90, 5 centimes en une semaine. On est au plus bas depuis la mi-mars, cette fois-ci. Par contre, pour le gaz et le pétrole, après le ouf de soulagement de l'accord de la semaine dernière, les prix se maintiennent. Donc pour le pétrole, on est à 79 euros le baril et le gaz à 43 presque euros le mégawatt-heure.
Merci Emmanuel Lechypre. Tous les jours, on suit évidemment comme le lait sur le feu les chiffres du carburant notamment. Il est 8h12, restez bien avec nous. Dans un instant, Arnaud Demange revient pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité, c'est le professeur émérite des universités spécialiste du Proche-Orient, Gilles Kepel. Essayez de comprendre ce qu'il se joue dans cet accord. Accord ou désaccord d'ailleurs entre Iran et États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que la guerre est finie? Je pose la question à Gilles Kepel qui analysera aussi les nouveaux équilibres du monde. Rendez-vous donc à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Ça, ce sera à 8h50. Mettre en contact des victimes de violences sexuelles. C'est ce que proposent certains sites internet avec un objectif pour rouvrir notamment tous les dossiers classés sans suite. Est-ce dangereux ou est-ce au contraire une initiative bienvenue de pouvoir se parler entre victimes? Ce sera en direct et on en parle à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 sur RMC et RMC Story, Arnaud Demange. Bonjour Arnaud.
Et bonjour Apolline. Bonjour à tous. Allez,
salut.
C'est la canicule, c'est cadeau. Je vous ai mis une liste de Valérie pour rafraîchir un petit, pour supporter. Voilà, ça nous manque la neige. Il fait chaud, il fait trop chaud, c'est horrible. J'écoutais le Morning tout à l'heure avec Élise Dangean et Victor Pourchet. Ils ont donné plein de bons conseils.
Ouais,
il y a
très
plein
bon
de gens.
Le Morning.
Ah ouais.
Et vous êtes bien dans le Morning RMC et c'est la canicule. Bonjour Victor. Bonjour Élise. C'est la canicule. Alors, si vous êtes diabétique, ne sortez pas. Vous allez caraméliser. Si vous êtes grippe poison, ne restez pas seul. Sinon, vous allez avoir du mal à ouvrir un robinet pour vous hydrater. Voilà, pensez à vous hydrater. Moi, j'ai bu plus d'eau en un week-end que Gérard Depardieu depuis sa naissance. Eh bien, merci Victor. Il n'y a pas de quoi, Élise. C'était un très beau morning. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez vu, ils ont remis la vasque olympique au Jardin des Tuileries hier. Super timing. Bravo, les gars. Le jour où il fait 40 degrés à Londres, ils allument un brasero géant en plein cœur de Paris. Hier soir, après avoir été voir la vasque avec ma femme, on s'est fait une petite raclette, histoire de...
Oui.
J'ai lu qu'ils voulaient la faire décoller. Mais avec le vent et la chaleur, ils ont renoncé. Ça aurait été con qu'elle file droit sur Notre-Dame. Ben non ! Je viens de tout reconstruire en 5 ans. Et puis hier, c'était la fête de la musique. Il y avait un monde fou dans les rues parce que nous, par 40 degrés, qu'est-ce qu'on fait pour avoir moins chaud? Eh ben, on se réunit à 200 personnes par mètre carré et on danse et on s'agite. Alors, avec la canicule, la vente d'alcool était interdite. C'est pour ça que moi, je suis resté chez moi.
Oui, bah oui, forcément.
Non, mais il y a que ça qui te fait supporter les chanteuses locales qui reprennent du Axel Red avec un demi-ton en dessous, très faux, ou le groupe des ados du quartier qui te massacre de Final Countdown. Et oui, ils étaient en bas de chez moi, ceux-là. Ils étaient filmés pour vous.
Ah ouais ?
Non, c'est pas vrai. C'est une vidéo YouTube.
Le candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, a tenu son premier grand meeting. Arnaud, c'était samedi au Parc Floral à Paris.
Ouais, ça avait l'air génial. Non, est-ce que c'était une bonne idée de réunir des vieux de droite en pleine canicule ? Ils étaient 3000 personnes au début du meeting, 2300 survivants à la fin. Non, heureusement, c'est pas vrai. Heureusement, Retailleau a brassé de l'air pendant 12 heures. Bon. Alors, le meeting a eu lieu sans les leaders de son parti. Pas Wauquiez, pas de Copé, pas de Xavier Bertrand. Mais par contre, il y avait des guest stars de ouf. Il y avait Boualem Sainte-Sall, François Baroin. François Baroin, la voix de Garou, le physique d'Harry Potter. C'est le seul homme de droite qui a jamais voulu se présenter à la présidentielle. Et il y avait aussi Michel Barnier et Valérie Pécresse et les jeunes avec Retailleau.
Ah oui ?
Parce que ça existe. Et oui, moi je me demande toujours, ça m'éclate. Qui adhère à ça ? Qui s'inscrit à... Salut, tu aimes les mocassins à glands, Jean-Pierre Raffarin, les chemises bleu ciel et le buis du fou ? Super ! Tu n'as pas d'amis ? Alors rejoins des gens qui n'en ont pas non plus. En adhérant aux Jeunes avec Retailleau, tu feras partie d'un club dynamique de 9 personnes déterminées à transformer la France. Tu as loupé tes places pour Céline Dion ? T'as de la chance, il reste des places pour Bruno Retailleau.
Ah.
Collage d'affiches, tracts, piñata en forme de président algérien, des milliers de raisons de s'éclater. Alors si tu as 40 ans et que tu n'as jamais fait l'amour, rejoins des gens qui te ressemblent, les Jeunes avec Retailleau. Ah.
Non, vous n'avez pas fait de jingle, je ne vous crois pas.
C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les Jeunes avec Retailleau.
Et puis ce soir, les Bleus rencontreront l'Irak.
Oui, la France qui affronte l'Irak, c'est Dominique de Villepin qui va pas être content.
Ah, c'est sûr.
Il va nous refaire son discours en début de match. C'est un vieux pays, la France, qui vous le dit, n'attaquons pas l'Irak. Eh ben si, on va le faire pour gagner. Alors, il n'y a pas un gros suspense. Statistiquement, l'Irak n'a jamais gagné contre la France en Coupe du Monde. Bon, ok, ils se sont jamais rencontrés, donc on s'y explique. Mais c'est comme moi, hein. Moi, j'ai eu zéro râteau avec Laetitia Casta. Eh ouais.
Eh ouais. Jamais rencontré. Parce que bon, jamais tenté.
Tiens, Apolline, je sais que vous êtes une femme de culture.
Oui, tout à fait.
Une femme d'histoire, une femme Barbara Gould. Eh bien, une petite anecdote historique.
Allons-y.
Sous le régime de Saddam Hussein en 81, plusieurs joueurs de l'équipe d'Irak avaient été envoyés en prison après une défaite face au Koweït. Putain, si nous aussi on envoyait les perdants en prison, il n'y aurait plus un seul joueur de libre à l'OM. Hein. Tu es là pourquoi, toi ?
Et moi, j'ai tué toute ma famille, mes voisins et mes patrons. Et toi ?
Oh, j'ai fait un mauvais dégagement contre le FC Metz.
Oh, t'es un monstre, le sang !
Voilà, avec cette vanne, je vais me faire virer par notre actionnaire marseillais sponsor de l'OM. Mais ça valait le coup, c'est l'humour.
Oui,
l'humour,
bien sûr.
Coluche, Pierre Desproges, Fred Hermel. Allez, courage aux Bleus. Et à demain.
Et à demain, Arnaud Demanche. Merci Arnaud, qu'on retrouve évidemment en podcast et en tournée partout en France. Attention, c'est World Wild. C'est Toulouse, c'est Besançon, c'est Saint-Etienne, c'est Lyon, Bordeaux, Nice, Aix-en-Provence, Gaillac et samedi à Morières-les-Avignons.
La tournée démarre.
Un spectacle RMC. Il est 8h22, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, ça se passe sur RMC et sur BFM TV parce que mon invité c'est Gilles Kepel. Gilles Kepel, le spécialiste du Moyen-Orient, avec ses pourparlers qui se sont terminés plus vite que prévu hier, même s'il y a eu des avancées. On en est où ? Des accords ou désaccords entre l'Iran et les États-Unis ? Est-ce qu'on peut considérer que la guerre est finie ? Et à quoi ressemble désormais l'équilibre ou le déséquilibre du monde ? Gilles Kepel répond à mes questions dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités spécialiste du Moyen-Orient parce que pendant ce temps-là, eh bien, les négociations, les différentes discussions pour tenter de s'accorder sur une feuille de route et peut-être un accord, ça se passe en Suisse et on voudrait tout comprendre ce matin avec vous. Accord ou désaccord ? Est-ce que la guerre est finie ? Quel est le nouvel équilibre dans la région ? Et quel est le nouvel équilibre ou déséquilibre dans le monde. mais d'abord sur ce qu'il se joue en ce moment même en Suisse et pour toute la semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où on se parle, la guerre est vraiment finie? Alors que je voudrais qu'on revienne aussi sur les dernières déclarations de Donald Trump hier, on avait un peu du mal à suivre.
Oui, alors les déclarations de Donald Trump, c'est pas le spécialiste du Moyen-Orient, c'est plutôt le spécialiste de neuropsychologie qui doit s'en occuper.
Tant c'est
puisque
compliqué de suivre.
Après avoir insulté Madame Mélanie, ensuite, ça a été les Iraniens. Bon, Emmanuel Macron s'en est bien sorti. Il a reçu à Versailles dans de la vaisselle dorée avec des couverts en vermeil, et donc il était calmé. Mais ça pose un vrai problème, cette façon dont le président des États-Unis fonctionne d'une manière très irrationnelle. Mais en tout cas, l'équipe qui est à Lucerne, au lac de Lucerne, du côté iranien comme du côté américain, sans compter les deux médiateurs qui jouent un rôle très important, ce ne sont pas seulement des médiateurs. Le Qatar, c'est lui qui va payer. Et le Pakistan, c'est le voisin de l'Iran qui a, lui, l'arme nucléaire. Et donc, on est dans une configuration assez particulière. Et les obstacles qui ont été mis hier par Donald Trump, qui a déclaré « je vais tous vous bombarder tout de suite si vous n'obéissez pas », les Iraniens ont dit « fais attention, surveille tes paroles, tiens ta langue », sont sortis symboliquement, mais sont revenus tout juste après.
C'était comme une sorte de suspension de séance avant de reprendre.
Voilà, en disant au fond, c'est plus là l'enjeu. Parce qu'il me semble que pour l'Iran, aujourd'hui, la négociation est extrêmement importante. Ils font croire qu'ils ont gagné, enfin en tout cas ils le disent à leur population, l'Iran national a résisté à la plus grande superpuissance qui sont résilients, etc., que Trump n'a pas gagné. Mais maintenant vient l'heure des comptes face à leur société. Et il y a deux choses en Iran qui se passent, il me semble, importantes. D'abord, la République islamique comme telle, elle n'est plus si islamique que ça. Le 28 février, la liquidation de l'ayatollah Khamenei, le père, et son remplacement par un fils qui est qui est un fantôme ou fantoche, je ne sais même pas s'il est là, hein, et qui est l'otage des gardiens, montre que le lieu de la décision n'est plus là. Le lieu de décision, il est dans l'establishment des gardiens et assez bien.
C'est-à-dire dans la partie militaire.
Militaro-politique.
Et non plus donc spirituelle,
oui,
si
c'est
je puis me permettre.
Voilà. Et on le voit du reste avec les photos que eux passent leur temps à diffuser de femmes dévoilées, si possible aussi blondes que ce soit. Oui, ça c'est la propagande iranienne qui veut montrer que le régime n'est plus crispé sur cette dimension-là. Et ça s'adresse pas seulement aux spectateurs occidentaux, que c'est pas ça qui leur importe, mais surtout à la société iranienne. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on réponde aux revendications qui, c'est celles du mois de janvier, et on va faire payer à travers le Qatar, les Occidentaux, pour les réparations. Et donc ça, pour eux, c'est un enjeu très important, parce qu'il faut bien voir que l'Iran est complètement à bout de souffle. Les Américains et les autres ont détruit des infrastructures en très grand nombre. Or, maintenant, on ne peut plus exercer, comme on le faisait pendant la guerre, la répression d'une manière indiscriminée. Il y avait des pendus partout en Iran.
Il n'y en a plus ou il y en a moins?
Alors, c'est difficile de le savoir. Il faudrait encore être sur place, mais on n'a plus l'impression qu'il y en ait, en tout cas. Et ça n'est pas dans l'intérêt du régime. Le régime est maintenant dans une logique. On va se réconcilier. Nous sommes nationalistes. On a gagné. Vous voyez les images qui diffusent les drapeaux iraniens qui pavoisent partout. Ils ont absolument besoin de s'assurer que des versements vont leur être faits. Ce qui va
Quand je vous écoute, Gilles Kepel, ce matin, vous semblez dire quand même que dans la négociation, l'Iran n'est pas tant en position de force que on a pu l'entendre ces derniers jours.
Il dit qu'il l'est. Et là où ça va se jouer, en fait, c'est ce qui au Liban. Parce que ce qui fait achoper, ce qui a valu la sortie de Donald Trump, c'est que le Hezbollah continue à tirer sur Israël. Donc
la formule de Donald Trump, c'est celle-ci. L'Iran doit immédiatement arrêter ses proxys, écrit en lettres majuscules, hautement payés au Liban, leur faire arrêter de causer des troubles. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très durement à nouveau, tout comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais encore plus fort. Et quand il disait proxy, on pense évidemment Hezbollah.
Voilà, c'est le plus important de leur mandataire, si j'ose dire. Mais d'une certaine façon, dans son propos un peu délirant, C'est vrai. C'est-à-dire que le message, c'est de dire à l'Iran, on arrête sur le Liban. Parce que si le Hezbollah cesse d'attaquer Israël, s'il y a et on a déjà des éléments qui vont un peu dans ce sens-là, puisque vous avez vu que hier soir, les Israéliens ont levé les alertes dans le nord d'Israël, c'est-à-dire les rassemblements sont autorisés, etc. Mais l'Iran ne peut pas donner l'ordre au Hezbollah d'arrêter tout de suite parce que c'est un élément qui leur reste dans la négociation.
C'est une carte dans leur
voilà,
manche.
Voilà, c'est une carte. Donc, à eux de la jouer relativement finement. Dans un contexte où le maillon faible dans cette affaire, ça n'est ni l'Iran, ni les États-Unis, c'est essentiellement Israël. Puisque Bibi Netanyahou donc, se retrouve lui confronté à une échéance électorale soit le 20, soit le 27 octobre pour la Knesset. Les sondages ne sont pas bons. On a vu émerger un nouveau rival qui est l'un des anciens chefs d'état-major, un séfarade marocain qui s'appelle Gabi Eisenscott, qui est à 2 sièges après le Likoud pour l'instant, donc 21 contre 23. Mais le problème aujourd'hui en Israël, c'est que vous avez 120 députés à la Knesset et aucun de ce qu'on appellerait ici de l'espace central, d'une certaine manière en France, ne peut gagner soit les religieux, le bloc des religieux extrémistes, soit les 15 probablement députés que vont avoir les Arabes israéliens quand parce qu'ils présentent une liste unie. Donc ça crée un problème institutionnel extrêmement important en Israël qui fragilise la position israélienne de négociation.
Gilles Kepel, Benjamin Netanyahou qui a assuré hier que l'armée israélienne, je cite, resterait dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Est-ce que ça, c'est compatible avec les discussions?
Tout dépend de ce qu'on entend par aussi longtemps que nécessaire, bien sûr. Il ne peut pas dire autre chose, parce que dès qu'il dit autre chose, ses rivaux, même s'ils disent qu'ils sont plus à gauche que lui ou quoi que ce soit, le traite de valet, carpette, paillasson, et donc les États-Unis, il a traité
mais
récemment
Naftali
Bennett.
Est-ce qu'il veut du coup surprouver qu'il ne l'est pas?
Eh oui, c'est toute la difficulté pour lui. Il est pris dans une seringue, vous voulez. Et l'autre côté, pour Israël, le grand enjeu, c'est le nucléaire iranien. Parce que, évidemment, la dimension existentielle, c'est que si l'Iran peut mettre du nucléaire sur un missile interbalistique, évidemment, même la survie d'Israël est en question. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu du côté israélien. Or, c'est là l'un des éléments, c'est de savoir dans quelle mesure le nucléaire iranien est encore utilisable. Et un certain nombre d'individus, vous avez ce matin dans Libre Journal, le petit journal de Geoffrin, le spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade, bon, certains sont d'accord avec lui, d'autres non, c'est un géographe qui connaît bien son sujet, qui explique que le stock nucléaire iranien est aujourd'hui peu utilisable. Et que les Iraniens sont prêts, ils ont déjà à le faire diluer, à s'en débarrasser, ils ont compris
parce que c'était... Parce qu'il, de toute façon, il ne serait pas utilisable. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, ils n'y attachent pas un temps d'importance parce qu'ils savent que de toute façon, il n'est pas efficace?
Oui, aussi parce que l'état de destruction des installations qui a eu lieu pendant la guerre des 12 jours est très important. Il est plus difficile à récupérer, etc. Et en fait, l'enjeu pour eux n'est pas là. Il leur suffit de garder les missiles. Parce qu'ils n'ont plus d'aviation.
Balistique.
Voilà. Ils n'ont plus d'aviation, ils n'ont plus de marine, etc. Les missiles sont leur seul, outil, si vous voulez, offensif ou défensif, qui peut leur peser militairement. Mais ça, l'utilisation peut s'en négocier. Donc, si vous voulez, vous avez cette dimension. D'abord, la question du nucléaire. Sérieux ou non, est-ce que ça va être dilué, confié aux Russes?
En tout cas, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que dans ce projet d'accord sur lequel ils sont en train de tenter de se mettre d'accord, oui, précisément avant qu'on ne puisse faire un accord à proprement parler, il y a écrit noir sur blanc. L'Iran réaffirme qu'il ne se procurera pas ni ne développera d'armes nucléaires. Et les deux pays affirment qu'ils discuteront d'un mécanisme permettant de traiter les stocks iraniens en recourant au minimum à une méthode de dilution sur place sous la supervision de l'AIEA. La question, évidemment, est de savoir quel est le degré de confiance si que l'on peut avoir dans la parole iranienne sur ce point.
Et les Iraniens ont gagné du temps jusqu'alors avec le JCPOA quand il a été supprimé, le fameux Joint Comprehensive Plan of Action que Trump avait déchiré. Les Iraniens ont fait de l'enrichissement ensuite discrètement en cachette. Donc, mais alors, on s'est dit aujourd'hui politiquement, il semble que la question du nucléaire n'est plus un enjeu réaliste pour les dirigeants iraniens. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Et il est mieux pour eux de conserver les missiles et d'obtenir l'argent du Qatar et la garantie pakistanaise, d'une certaine manière, vous voyez. Et c'est un enjeu de survie pour le régime nationaliste des gardiens. Sans cela, celui-ci va se trouver extrêmement fragilisé par rapport à une société que les gardiens mettent aujourd'hui en avant, mais à qui on va demander des comptes. Et vous voyez, c'est pour ça que l'Iran est dans une situation qui est aujourd'hui qui est moins simple. Ce que les Américains perçoivent à travers la manière un peu particulière de s'exprimer de Trump, mais il me semble que vous avez cette dimension-là qu'il faut bien comprendre, et l'autre qui est la fragilité israélienne, puisque Netanyahou n'est plus d'une certaine manière le seul maître à bord, puisque c'est un Netanyahou qui veut se faire réélire. Sinon,
puisque c'est un Netanyahou en campagne, avec donc la question de savoir s'il restera ou non. Est-ce que Netanyahou peut, alors il semble utiliser la question nucléaire iranienne comme un argument de campagne, puisqu'il dit tant que moi je suis élu, voilà, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Est-ce qu'il pourrait aussi faire la guerre seul, c'est-à-dire que maintenant que les États-Unis s'en retirent, est-ce que la tentation de poursuivre la guerre, au moins au Liban, seul, existe?
Ça va être très difficile. En Iran, c'est exclu, évidemment, et au Liban, bien sûr, ils en ont la capacité, mais sauf si les États-Unis l'interdisent. Or, l'un des enjeux de la négociation, justement, après les 60 jours, c'est d'arriver à cela, c'est-à-dire à ce que or la possibilité que Israël ne frappe plus le Liban et se retire des territoires qui ont été occupés dans le sud du Liban, c'est que le Hezbollah soit contrôlé et ne bouge plus. Or le Hezbollah fait ce que Téhéran lui dit de faire. Donc ça va être toute la question des garanties que demande l'Iran pour retenir le Hezbollah, si vous voulez. Et l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est évidemment le détroit d'Ormuz. Là aussi, ça monte et ça descend. On fait monter la mayonnaise et puis ensuite on calme le jeu.
Donald Trump qui dit il n'y aura pas de péage, il n'y aura pas de droit de péage dans le détroit d'Ormuz, sauf si nous décidons, nous, Américains, de faire payer. Ça veut dire qu'il ne considère pas, en tout cas, qu'il puisse y avoir quelques péages que ce soit du côté iranien, et lui-même menace de faire une sorte de surpéage à la sortie.
Oui, de l'autre côté, oui, parce que il n'y a pas que les pétroliers, et bien sûr, c'est très important, le pétrolier. Vous avez aussi la base américaine à Bahreïn, et la base française aussi à Abu Dhabi. Vous imaginez l'amiral français ou l'amiral américain taper à la porte du capitaine iranien et dire voilà, est-ce qu'on pourrait sortir, est-ce que venez inspecter le bateau, difficilement. Donc, et les enjeux de ce qui passe par le Golfe, qui concerne évidemment la souveraineté du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du malheureux Koweït, des Émirats Arabes Unis, etc. C'est très difficile de considérer que c'est simplement quelque chose qui doit être géré par un douanier omanais et
avec une question aussi qui est la question des sous, c'est-à-dire que si l'Iran ne récupère pas de sous à travers un péage à Hormuz, il les récupérera par ce déblocage, ce fameux déblocage des avoirs gelés. De quoi on parle en réalité quand on parle de ces avoirs gelés?
Oui, je crois que la taxe d'Hormuz, c'est un prétexte, parce que c'est pas là que c'est effectivement cette somme dite de 300 milliards de dollars, les gardiens estiment les dommages à 270, enfin ça vaut ce que ça vaut, qui seraient débloqués. Donc il y a un somme d'avoirs gelés du fait
en réalité, de l'argent iranien
qui est gelé, mais ça c'est d'une vingtaine de milliards seulement, qui est gelé un peu partout, en France par exemple, entre autres. Mais l'enjeu, c'est que le Qatar principalement et les Émirats ou l'Arabie Saoudite investissent dans l'économie iranienne, ce qui change complètement la dimension du Golfe. Ça veut dire que alors que le parapluie nucléaire américain a montré, enfin le militaire pardon, américain a montré qu'il y avait des trous dans la raquette, qu'il ne savait pas grand chose. Une option pour les Qataris, les Émiratis peut-être, mais surtout les Qataris et Saoudiens pour l'instant, c'est de se dire nous allons gérer la sécurité en faisant des investissements et en trouvant un modus vivendi.
Donc ils auraient un pied en quelque sorte
voilà.
En Iran.
Ce qui ferait que l'Iran rejoindrait l'économie mondialisée et ne serait plus un État
voyou. Et là j'en viens à ce que vous nous disiez, c'est très intéressant parce qu'au fond ça fait écho aussi à ce que vous disiez au début de cet entretien sur des changements qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est-à-dire que tout le monde disait le changement de régime était un des objectifs du début, mais il a été complètement abandonné en cours de route. Mais si je vous entends bien, il n'y a pas un changement de régime, mais il y a dans les faits quand même une inflexion du régime. Et ce pied économique ou cette entrée économique dans le pays du reste du monde, est-ce que c'est pas aussi une manière en quelque sorte de changer le régime de l'intérieur?
Voilà. Et c'est en Iran quelque chose qui suscite des réactions. Vous avez vu, alors, certains expliquent maintenant qu'en Iran, qu'il y a le camp des négociateurs, représenté plutôt par Khalibaf, qui est un doctorant de géographie, enfin docteur en géographie, donc président du Parlement, c'est ça, et président qui est plus important, si vous voulez, que Pezeshkian, le président lui-même, qui est plutôt protocolaire, semble-t-il, aujourd'hui. Et face à cela, vous avez un certain nombre de gens qui veulent rester fidèles à la logique religieuse, révolution islamique, etc., et qui ont dit, vous êtes tous des traîtres, vous allez tout lâcher, nous devons être un pays révolutionnaire, l'avant-garde du Sud, etc. Or, aujourd'hui, il semble qu'il y ait des négociateurs réalistes ou autres, qui disent maintenant, cette guerre nous a servi à nous débarrasser, paradoxalement, grâce aux Israéliens, aux Américains, ils ne vont pas le dire, des plus radicaux du régime. Maintenant, on va faire entrer l'Iran dans la prospérité, parce que l'Iran, avec les quantités de pétrole qu'il a, ce pétrole servant aux alliés vénézuéliens qui ne sont plus dans le coup maintenant et aux autres proxys de toutes sortes à travers le monde, ça n'est plus ce qu'il faut faire. Il faut que nous entrions aux meilleures conditions pour nous dans l'économie mondialisée et que nous soyons aussi prospères que les voisins arabes d'en face.
Presque ferait à nouveau partie d'ici voilà. quelques temps du concert des nations.
Voilà, enfin plus ou moins. Mais nous n'y sommes pas. Mais à l'intérieur du régime, il y a un certain nombre de gens qui poussent là-dedans. Et il me semble que parmi les négociateurs, et c'est pourquoi il y a les négociations. C'est pourquoi Trump les ayant insultés, ils ont dit fais attention à ce que tu racontes.
Mais ils sont revenus
et ils reviennent. Alors donc oui, mais c'est un jeu avec toutes sortes de boules en même temps. C'est-à-dire vous avez la boule libano. Israélienne, qu'on vient d'expliquer, et vous avez l'élément Hormuz, dont il me semble quand même que les Iraniens vont finir par céder là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas être dans une économie mondialisée s'ils bloquent, ils ne peuvent pas être à la fois des pirates et des commerçants.
Et
commerçants. C'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup Gilles Kepel, absolument passionnant d'avoir pu mieux comprendre avec vous. Vous êtes professeur émérite des universités et spécialiste du Moyen-Orient. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Et on va revenir sur les conseils.
Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. Nous reviendrons sur ces sites internet qui réclament le réexamen des plaintes classées sans suite par la justice pour violences sexuelles. Et puis les dernières infos avant le match des Bleus de ce soir. À tout de suite.
RMC Apolline Matin.
Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC. Le mondial d'Antoine, c'est avec vous, Antoine Sabardin. Bonjour Antoine.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, vous nous donnerez les toutes dernières infos sur le mondial avant le deuxième match des Bleus ce soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction. Et c'est avec vous Bérangère Bocquillon. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Chef du service société d'RMC. Les conclusions de l'enquête sur les nombreux dysfonctionnements dans l'affaire Liana vont être rendues ce matin. En attendant, le gouvernement a exigé le réexamen des 70 000 plaintes pour violences sur mineurs qui sont en stock et pas gérés. Et il prévoit aussi une nouvelle loi contre les violences sexuelles. Mais Bérangère, il y a aussi des initiatives citoyennes. Un site internet classé sans suite, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui recense des plaintes ignorées par la justice. Et ça n'est pas la seule initiative citoyenne, hein, Bérangère.
Oui, pour que vous compreniez pourquoi ces sites rencontrent un tel succès, j'ai interrogé Sylvie. Elle a 53 ans, elle me raconte avoir été agressée sexuellement à 17 ans par son professeur de danse à la Compagnie des enfants du spectacle de Nice.
Je me suis blessée lors d'un cours et il m'a fait venir dans son bureau sous prétexte de me soigner. Et il a commencé à me faire un massage et en fait, il m'a agressée. Ça a été vraiment la sidération. Et puis, rapidement, j'ai oublié.
Le souvenir lui revient des années plus tard et c'est seulement il y a 2 ans, à 51 ans, qu'elle cherche à porter plainte contre lui. Mais l'affaire est prescrite, elle n'a aucune preuve et Sylvie connaît les statistiques, 86% de classements sans suite dans les affaires de violences sexuelles.
Je sais que je n'ai aucune chance si je suis toute seule, en tout cas. Et en fait, toutes ces années, moi, je me suis dit, mais je dois pas être la seule. Et au bout d'un moment, je tombe sur coabuse.fr.
Et donc, elle a connu coabuse.fr. C'est ça ce qu'elle dit. C'est quoi, coabuse.fr?
C'est un site internet qui vous met en contact avec d'autres victimes de votre agresseur. Et quand Sylvie envoie son message au site coabuse.fr, elle reçoit une réponse 48 heures plus tard qui lui dit que son message a matché avec celui d'une autre victime. Elle dénonce toutes les deux le même homme.
Et elle, ça faisait 4 ans et 4 mois qu'elle m'attendait, qu'elle avait rempli une fiche en citant le même homme. C'est un tel soulagement pour l'une et l'autre de s'être trouvées.
Sylvie a porté plainte l'an dernier avec 4 autres victimes, dont 2 pour des agressions non prescrites. Et ce professeur de danse est depuis un mois en détention provisoire.
Qui est derrière ce site coabuse.fr, Bérangère?
Eh bien, c'est un particulier, un bénévole, tout seul. Il a créé cette plateforme il y a 10 ans parce qu'il vivait dans le village du Père Prénat, dans le Rhône. Vous savez, ce curé qui a fait des centaines de victimes parmi les scouts.
C'est légal?
Oui, parce que c'est une correspondance privée, rien n'est public. Vous écrivez à ce bénévole via le site coabuse.fr et s'il a déjà reçu le message d'une autre victime du même agresseur, il vous propose d'entrer en contact avec elle. Il appelle ça « matcher ». Et grâce à lui, plus de 550 personnes ont reçu, comme Sylvie, un ou plusieurs matchs. On lui doit des arrestations de plusieurs pédocriminels, de violeurs. Et ce bénévole, il s'appelle Franck Favre.
Chaque match est une victoire parce que un match, c'est quelque chose de hyper bénéfique pour les victimes. Des gens même me disent que ça a changé leur vie pour toujours.
Mais ça devrait pas être aux enquêteurs de faire ce boulot-là. Ils devraient pas le faire eux, Bérangère?
Bah peut-être. Hein. D'ailleurs, un haut magistrat me confie que cette plateforme était une très bonne initiative citoyenne. Maître Jean Sanier ne le sait que trop bien. C'est l'avocat de l'association de défense des enfants Innocence en danger.
La justice, elle est morte. Je dis pas qu'elle est en train de mourir. Je dis qu'elle est morte. Parce que ce cadavre n'est pas encore froid. Il faut que des citoyens s'emparent de ce qu'elle ne fait pas. Le parcours d'une victime est un parcours qui est extrêmement difficile. C'est un parcours qui vous abîme. Si vous entrez dans ce parcours seul, vous avez beaucoup de chances de ne pas arriver au bout. Parce que la justice ne va pas vous entendre. La police ne va pas vous croire. Lorsqu'il y a 2 personnes qui décrivent le même individu, il y a une crédibilité qui devient beaucoup plus importante.
Et si écrire à coabuse.fr est donc utile, les magistrats veulent rappeler qu'à la fin, la justice, ça doit se passer dans les tribunaux.
Merci beaucoup Bérangère Bouquillon pour cette enquête et ce reportage remarquable. Chef du service société d'RMC, il est 8h54, on parle foot.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Sabardin, toujours avec nous, le journal de la Coupe du Monde chaque matin. Et en ce lundi 22 juin, on commence forcément par parler de la France qui affronte l'Irak ce soir à Philadelphie.
Et oui, et le personnage le plus connu de Philadelphie, c'est qui? C'est Rocky Balboa, bien sûr. Trône en plein cœur de la ville de Pennsylvanie, une statue à l'effigie du plus célèbre des boxeurs de cinéma, un monument qui porte malheur, sachez-le. Les fans de sport américains ont appris à leurs dépens qu'habiller l'icône de la ville est loin de porter chance. Écharpe, maillot ou casquette, dès qu'un supporter recouvre la statue aux couleurs de son équipe, celle-ci finit par s'incliner. Malédiction de Rocky confirmée en début de mondial puisque les supporters équatoriens n'étaient visiblement pas au courant et se sont inclinés alors. Les supporters français qui se sont réunis devant cette nuit avaient un message, surtout ne pas draper la statue des couleurs françaises. Message entendu, ça n'a pas été fait.
L'Iran jouait hier soir.
Oui, les Iraniens ont fait match nul contre la Belgique, 0-0, une grande performance pour les joueurs, un exploit qui va bien au-delà du sportif pour le sélectionneur Amir Khalenei, qui rappelle les conditions dans lesquelles cette équipe est arrivée au Mondial. Visa compliqué, restrictions de déplacement, absence de match de préparation, beaucoup d'obstacles. Sachez par exemple que l'équipe est arrivée moins de 16 heures avant la rencontre face aux Belges à Los Angeles, avant de devoir reprendre la route vers son camp de base de Tijuana au Mexique. Homme du match, le gardien Alireza Behrendtvand, 7 arrêts dont un spectaculaire. L'Iran est toujours en course pour une éventuelle qualification en 16e de finale. Troisième match à Seattle vendredi où l'Iran pourra d'ailleurs arriver 2 jours avant et c'est une première.
Et puis Antoine, il y a eu 2 autres exploits cette nuit sur les pelouses américaines.
Tout à fait. Le Cap Vert d'abord. Après un match nul contre l'Espagne en ouverture, voilà que les Capverdiens qui disputent leur première Coupe du Monde, rappelons-le, ont accroché un autre champion du monde, l'Uruguay. De partout, les deux premiers buts du pays au Mondial donc. Et une nation a débloqué son compteur de victoires dans cette compétition. C'est l'Égypte qui participe à son quatrième Mondial en 2026. Et voilà les Pharaons qui ont remporté leur premier succès, 3-1, face à la Nouvelle-Zélande.
Enfin Antoine, il y a une nouveauté qui a du mal à passer dans ce Mondial.
Ouais, les pauses fraîcheurs, les fameuses, instaurées dans cette Coupe du Monde au nombre de deux, une par période, et forcées de constater qu'elles ne sont pas tout le temps nécessaires et que les acteurs ne sont pas emballés pour l'instant. Elles n'apportent rien et enlèvent beaucoup au football, a par exemple déclaré Marcelo Bielsa, c'est le sélectionneur de l'Uruguay. Pour Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, il estime que ces interruptions cassent le rythme des rencontres et favorisent les équipes dominées, à l'image de l'égalisation brésilienne face au Maroc lors de la première journée. Côté français, Kylian Mbappé est pour l'instant un peu mitigé. Il se dit peut-être que, comme toutes les nouvelles règles, ça va attendre.
Merci Antoine, Antoine Sabardin. France-Irak, 23h à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Avant match, dès 18h. Et l'afterfoot, ce sera jusqu'à 5h du matin. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Il est 8h57. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les grandes gueules, dans un instant, bien sûr. Avec nos GG et avec vous, on va parler de la canicule. Est-ce qu'il fallait fermer toutes les écoles? La SNCF qui appelle les personnes vulnérables à ne pas prendre le train, faut quand même le faire, c'est le service public, faut le rappeler. Et puis le congé climatique voulu par les écologistes, ça fera partie de nos discussions bien sûr. Entre autres, on vous attend au 32-16, Joël Dagosséry sera là tout comme Emmanuel Le Villiers et Charles Consigny. Allez, à tout de suite avec les GG.